Bonjour, je suis Benjamin Habitant, directeur général de Châteauforme. Bienvenue dans ce premier épisode de Human to Human, des conversations avec des entrepreneurs et dirigeants convaincus que l'humanisme dans l'entreprise est l'avenir du monde. C'est au Châteauforme Liège-Saint-Lazare que je reçois mon premier invité, Vincent Klingbeil. Vincent, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci beaucoup pour l'invitation, Benjamin.
On te connaît aujourd'hui plus pour EDG, mais j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours d'entrepreneur et que tu nous racontes en quelques mots, en citant un échec et un succès.
Avec plaisir. Moi, je suis en fait un ancien avocat d'affaires reconverti dans le digital. Donc, j'étais avocat pendant une période assez courte, parce que je n'ai pas du tout aimé ce métier. Je trouvais que ce n'était pas assez créatif. Je n'étais pas épanoui dans ce métier. Et donc, j'ai décidé de tout quitter pour monter une start-up. Et à ce moment-là, on m'a dit, mais t'es fou, t'as fait du droit, une école de commerce, beaucoup d'études, c'est très risqué, t'as pas de fortune personnelle, tu quittes tout pour l'inconnu, c'est très risqué. Et moi, j'ai dit non, j'y crois, ça va marcher. Et donc, j'ai monté une start-up et j'ai travaillé. Et ça n'a pas marché. Donc, j'ai connu l'échec. Et donc là, je sais pas si tu vois ce que c'est le fond du trou. Ben, j'étais en dessous du fond du trou, tu vois, j'étais vraiment
creusé un peu.
Je m'étais dit, merde, j'étais avocat, maintenant ça fait 3 ans, j'ai arrêté, je ne peux plus redevenir avocat. J'ai quand même beaucoup, beaucoup semé dans ma vie, mais je ne récolte rien. Donc j'étais vraiment très triste et je trouvais que c'était injuste parce que j'avais beaucoup, beaucoup travaillé et je ne récoltais pas. Et en fait, j'ai compris que quelques années après, que sans cet échec, il ne me serait jamais arrivé les bonnes choses qui sont arrivées après. Et donc, à ce moment-là, j'ai rencontré ma femme actuelle. Et je lui ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je redeviens avocat? Est-ce que je retente une aventure entrepreneuriale? Et donc, bon, il y a beaucoup de femmes qui auraient dit, bon, allez, vas-y, joue la sécurité maintenant, redeviens avocat, arrête de déconner. Et elle m'a dit, non, t'étais pas épanoui en tant qu'avocat, t'aimais pas, donc maintenant, retente encore un projet. Et là, j'ai retenté une nouvelle aventure, donc Ametix. Et là, je pense que j'étais tellement dégoûté d'avoir échoué mon aventure entrepreneuriale que j'ai mis, c'est même plus de l'énergie, quoi, j'ai travaillé jour et nuit. Pendant quelques années, on était vraiment ce qu'on appelle des morts de faim. Et en 5 ans, voilà, on est passé de 0 à 600 salariés. Donc la boîte a vraiment bien fonctionné. Et ensuite, on a revendu cette boîte au groupe La Poste, à l'issue de quoi j'ai été postier pendant quelques années, puisque j'ai accompagné après. J'ai adoré d'ailleurs l'univers de La Poste. Et voilà, et après ça, une fois que j'avais terminé mon aventure postale, j'ai décidé de relancer un projet. Donc voilà, je me suis associé avec un fonds de private equity, Montefior, pour monter European Digital Group.
Génial. Alors avant de continuer sur European Digital Group, j'aurais voulu juste toucher, tu as parlé de ton épanouissement dans ta première aventure et de ce qui s'est passé dans ta deuxième aventure. Notre sujet aujourd'hui, c'est la culture d'entreprise et notamment l'entreprise humaniste qui met en avant ses talents. Est-ce que tes premières expériences ont fait que dans tes expériences qui ont réussi, tu as pris un soin particulier à l'épanouissement de tes talents?
Alors pour moi, les ressources humaines d'une manière générale, les RH, c'est la clé de voûte de la réussite d'une entreprise. Et puis moi qui suis dans le digital, c'est également les RH, la clé de voûte de la réussite d'une transformation digitale réussie. On est dans le digital, nous, sur un marché ultra pénurique, parce que selon un rapport de la Commission européenne, il y a plus de 80 000 postes vacants dans l'IT, puisqu'il y a beaucoup... La transformation digitale, c'est la priorité numéro une de tout le CAC 40, de toutes les ETI, de toutes les PME, et il n'y a pas assez de profils de développeurs, de chefs de projet digitaux, de traffic managers, de tous les métiers dans le digital marketing ou dans l'IT. Donc, on est sur un marché pénurique, et donc, c'est très important de bien savoir sourcer les talents, mais surtout de les retenir. Et pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle, alors c'est un terme qui est un peu galvaudé maintenant, mais tout ce qui est feel-good management, tout ce qui est happiness dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'il faut de plus en plus fédérer les équipes. Et encore plus post-Covid, puisque maintenant, avec la généralisation du télétravail, il y a moins d'affect. Avec le télétravail, on se voit moins. Donc, il faut les fédérer. Et c'est vrai que Châteauforme est une bonne réponse pour cela, parce que ça permet, même si on est en télétravail, de pouvoir se réunir dans un endroit convivial, sympathique, et de faire de plus en plus de séminaires. Et moi, je suis chez European Digital Group, mais c'était également le cas dans ma précédente société. On fait beaucoup d'événements pour se réunir. Donc là, il y a 2 jours, on a organisé avec une de nos sociétés Wall le club Metaverse. Il y a également notre société Métis qui a organisé un club concordant sur la cybersécurité. On fait beaucoup, beaucoup d'événements pour échanger entre pairs, monter en compétences, surtout créer des liens entre nous.
Génial. Et ce qui m'intéresse dans ton aventure aujourd'hui European Digital Group, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est et aussi comment tu fédères aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle aventure?
Alors, Open Digital, c'est un nouvel acteur dans l'accélération digitale qui regroupe des ultra spécialistes dans chaque levier de l'accélération digitale pour monter une offre globale à destination des grands groupes, des ETI et des PME. On a créé ce projet il y a 3 ans, enfin, c'était, et on a eu une grosse croissance, puisque là, on est passé de 0 à 200 millions de chiffre d'affaires en moins de 3 ans, avec voilà, une très forte croissance organique et également beaucoup de croissance externe. On a racheté beaucoup de sociétés. Et effectivement, l'intégration, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, on a mis en place tous les process pour fidéliser nos talents, pour que les talents se sentent vraiment bien chez nous. Bien sûr, aussi les former, les faire monter en compétences, quelque chose de très important. Et pour cela, voilà, il faut. Alors, il y a, c'est aussi un terme très galvaudé, c'est le terme management par la bienveillance. Alors, c'est un terme qui est très utilisé, mais qui est très important. En fait, je pense que pour fédérer et pour, voilà, réussir l'intégration d'une société, il faut avoir dans son entreprise des valeurs. Chaque entreprise, voilà, a ses valeurs. Et dans ses valeurs, même si ce terme est trop utilisé, bah, moi, je continue à l'utiliser quand même. Il faut être bienveillant. Et je pense que quand on est bienveillant avec les salariés, on arrive à les fédérer, à les embarquer sur un projet. Et après, quand je parle plus spécifiquement de nos profils, donc les profils digitaux, bizarrement, c'est pas le salaire qui intéresse le plus un profil dans l'IT ou dans le digital, c'est vraiment le projet. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit en mesure que les projets de nos clients soient tellement intéressants, techniquement challengeants, que les candidats aient envie de nous rejoindre pour participer à cette aventure et à ces projets. Donc, on essaye. On a la chance d'avoir beaucoup de demandes entrantes d'inbound en termes de demandes de projets pour nos clients, de choisir les projets sur lesquels il y a le plus de challenges techniques pour embarquer nos équipes et qu'ils soient heureux, qu'ils aient vraiment une excitation à travailler sur ce projet.
Dans ce que tu dis, j'entends que pour les techniciens, et tu amènes du sens en fait par le challenge qu'amènent les projets, mais tu as aussi cité le côté galvaudé de certains de ces termes de valeur, des feel-good management, etc. Comment est-ce que tu fais pour que ce ne soit pas que du feel-good washing ou du valeur washing, que ça soit en tout cas pas que de l'apparence, mais que ça soit concret, que les gens vivent quelque chose de concret? Je te donne un exemple. Chez Châteauform, on a ce qu'on appelle la roue du bonheur, qui fait partie de nos valeurs fondamentales, où ce sont, dans l'expérience qu'on rend, notamment une expérience hôtelière, des talents heureux qui font des clients heureux. Parce que je ne peux pas donner une expérience qui rend le client heureux avec mes talents si mes talents eux-mêmes ne vivent pas une expérience épanouissante. Est-ce que toi, tu as des exemples plus concrets ou comment est-ce que tu fais pour que les dirigeants qui rejoignent EDG avec leur société spécialisée ne soient pas que dans l'apparence, mais aillent...
Alors, c'est vrai, c'est un sujet, le feel good management, c'est un sujet qui me passionne. Alors, après, il faut arrêter avec en pensant que si on met juste un baby-foot, une arcade de jeux vidéo, que ça suffira, voilà, un peu en mode Google, que ça suffira à rendre les salariés heureux. Je pense qu'aujourd'hui, les salariés sont en quête de sens. C'est pour ça qu'il y a ce mouvement-là du quiet quitting de toutes ces salariés, voilà, qui maintenant font le minimum dans les entreprises s'ils n'adhèrent pas aux valeurs. Donc, je pense. Le premier élément, c'est d'avoir des valeurs, mais des valeurs sincères. Et ensuite, c'est de faire preuve beaucoup d'empathie, de se mettre à la place du salarié et de se dire, mais qu'est-ce que j'attendrais à sa place? Qu'est-ce que j'attendrais de la société? Et c'est pour ça que moi, ce que je comprends, c'est que nos collaborateurs veulent du challenge technique, ils veulent de bons projets, ils veulent aussi qu'il y ait une bonne ambiance dans l'entreprise. Nous, naturellement, on adore faire la fête, donc ça tombe bien. On fait tout le temps des fêtes, mais c'est pas du tout qu'on se force ou c'est pas pour le feel good management. C'est déjà parce qu'on adore. Et donc il y a des événements. Nous, aujourd'hui, il y a 1 600 salariés dans tout le groupe EDG, en plein de sociétés différentes. Mais chaque société organise. Et il n'y a pas une soirée où il n'y a pas un ou deux événements. Donc je te disais, c'était les Clubs Métaverse il y a 2 jours. C'était le Club Cyber. Aujourd'hui, on a fait, voilà, également, on s'est réunis tous ensemble, des after-work entre les sales, des soirées d'entreprise. Voilà, toujours célébrer les victoires. C'est important. Je pense que les collaborateurs ont besoin aussi de reconnaissance. Donc quand il y a des succès, c'est bien de célébrer les victoires ensemble. Quand on signe un gros contrat ou quand on gagne un gros projet. C'est bien, voilà, de mettre en avant les personnes qui ont participé et de célébrer avec eux. De toute façon, dès qu'on a une occasion de célébrer quelque chose, on va célébrer.
Dans ce que tu viens de dire, j'entends l'exemplarité du dirigeant quand il se met à la place d'eux, c'est-à-dire que lui-même, il doit vivre une expérience similaire, l'authenticité quand tu dis que tu aimes la fête, le sens. Et donc ça, c'est pour les leaders et les dirigeants. Est-ce que tu as aussi une vision de ce que le talent doit amener à l'entreprise, ou le collaborateur doit amener à l'entreprise humaniste? Est-ce qu'il y a une, pas une contrepartie, mais une manière de jouer le jeu ou à l'opposé, un appel aux collaborateurs qui seraient dans des entreprises qui ne prennent pas soin d'eux, de quitter ces entreprises pour des entreprises qui prennent soin d'eux?
Alors, je pense que le collaborateur, il attend non seulement qu'on prenne soin de lui, mais maintenant, de plus en plus, qu'on prenne soin aussi des autres et de la planète. C'est pour ça qu'on a une... Alors, j'aime pas trop communiquer sur ça, parce que j'estime qu'il faut le faire, mais on n'a pas besoin de trop en parler. Mais c'est vrai qu'on a, nous, une forte démarche RSE. Et on a essayé de trouver dans chaque société un ou deux combats en termes d'RSE sur lesquels on devait se pencher et se concentrer. Donc, par exemple, sur Follow, qui est une société dans l'influence marketing, ben, on se concentre sur l'influence responsable. Une charte de l'influence responsable, voir comment on peut mieux encadrer ce secteur. Et sur chaque société, on essaye d'avoir un ou deux combats pour avoir une politique RSE active. Et ça, c'est vraiment une demande des salariés. Les salariés, aujourd'hui, attendent de leur entreprise qu'on montre l'exemple en termes de RSE. Et sur... énormément de sujets, et je le vois, j'ai vu tout à l'heure chez Château Farm, il y avait des bouteilles en carton. Voilà, c'est aujourd'hui, si vous avez des bouteilles en plastique, ben, le salarié peut vous le reprocher et dire il faudrait qu'on ait une démarche quand même, on fasse plus attention, sinon il risque de ne pas boire après. Donc c'est embêtant.
L'impact est crucial. Et alors, tu nous as cité un peu déjà, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres qui va amener à ma deuxième question au-delà des chiffres? C'est que je sais que tu as mis en place des synergies. Et que beaucoup d'entreprises, notamment lors d'acquisitions, parlent de synergie et réfléchissent à quantifier ça et essayer de le mettre en place, mais que c'est beaucoup plus facile en théorie qu'en pratique et à vraiment mettre en place. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur comment est-ce que tu...
Alors, European Digital Group, aujourd'hui, c'est une quinzaine de sociétés. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est à près de 200 millions de chiffre d'affaires. Forte croissance, en moyenne, la croissance moyenne des entreprises est au-dessus de 30% par an. Sur les trois dernières années, et on est bien parti sur 2022, et puis 2000, on espère, et 2023. Alors déjà, nous, pour favoriser les synergies, on a mis en place quelque chose qui est un actionnariat croisé, qui fait que toutes nos sociétés sont actionnaires les unes des autres, tous les fondateurs sont encore actionnaires de leur société, et ils sont également actionnaires du groupe, ce qui fait qu'on a déjà un incentive à travailler ensemble. Ma grande fierté aussi chez EDG, c'est qu'on doit être aujourd'hui 1600, 1700 collaborateurs et il doit y avoir plus d'une centaine qui sont actionnaires de leur société ou du groupe. Et c'est vraiment quelque chose qui donne énormément d'énergie, de dynamisme, puisque tout le monde se sent, enfin, tout le monde, mais ses managers se sentent vraiment impliqués dans le projet et mettent encore plus d'énergie. Donc voilà, associer les collaborateurs, ça peut être via des BSPCE, via des management packages, via des actions gratuites ou même des actions ordinaires. Il y a énormément de leviers pour le faire. C'est quelque chose aussi qui fédère et qui donne de l'énergie, qui donne du sens aussi aux collaborateurs qui se disent bah, « je me bats et tout ça, mais je vais récolter aussi une partie des fruits du succès de l'entreprise ».
Dans ta vision du travail, pour toi, ça c'est un des leviers forts du futur du travail, l'intégration et l'implication de tous les collaborateurs et de toutes les parties prenantes dans...
Bah oui, on a la chance d'avoir plein de mécanismes possibles pour incentiver, pour motiver les salariés, enfin pour les motiver, mais aussi pour les retenir. Un salarié qui a des parts de la société, il a moins de chances de partir qu'un salarié qui n'en a pas. Donc c'est un moyen d'attirer des super talents, mais aussi de fidéliser les talents au sein de l'entreprise. Donc faut utiliser tous ces leviers qui en plus permettent de vivre une aventure commune tous ensemble.
Aujourd'hui, dans le cadre de cette vision du travail, beaucoup de dirigeants se posent la question du télétravail et du rapport au bureau. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ta vision du rapport au télétravail et du monde du bureau?
Tu m'aurais posé cette question en 2017, je t'aurais dit zéro télétravail, inenvisageable. C'était vraiment quelque chose auquel je ne croyais pas du tout, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Et tu me la poses aujourd'hui, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Enfin, j'ai totalement changé d'avis. Maintenant, le télétravail, c'est quelque chose qui est totalement accepté. Le full télétravail, le full remote, ça dépend des métiers. Je pense qu'il y a des métiers pour lesquels c'est possible, mais il y en a d'autres pour lesquels ce n'est pas adapté. Le mix télétravail, présentiel, c'est quelque chose que je suis assez, enfin même très favorable. Par contre, il faut, en contrepartie, voilà, faire beaucoup de séminaires d'entreprise, faire beaucoup d'events collectifs pour ne pas perdre ce lien entre les équipes et qui fait aussi le succès d'une entreprise. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de conversations à la CAFET qui ont amené à des décisions cruciales pour des business. Donc, il ne faut pas perdre non plus ces petits moments informels et ces liens informels. C'est pour ça que le full télétravail, même psychologiquement pour un collaborateur, de jamais voir ses collègues, d'être tout le temps chez soi, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très sain. Néanmoins, si vraiment c'est une exigence du collaborateur, on va lui demander, on va accepter, mais on va quand même attendre de lui qu'il vienne quand même de temps en temps nous voir.
C'est intéressant, tu parles de cette création de communauté. Je discutais avec un entrepreneur récemment qui m'expliquait son... c'était une jeune start-up dans la technologie créée pendant le Covid où, étant 100% en télétravail, ils ont eu une crise entre les deux fondateurs à un moment où, charnière, pivot de la vie de l'entreprise. Et n'ayant jamais créé cette glue, parce qu'on parle souvent des avantages du télétravail, mais le désavantage, c'est que n'ayant jamais créé cette glue, leurs employés stars qui étaient courtisés par beaucoup d'autres entreprises, en moins d'une semaine, ont tous quitté le navire, puisqu'ils n'avaient pas créé cette dynamique, cette dynamique entre eux. Et donc, on le voit aussi chez Châteauform, où on a plus de 2000 nouveaux clients cette année, principalement des startups et des PME, qui utilisent plus le séminaire comme des moments de création de liens.
C'est ça.
Et ils viennent travailler, même pas forcément ensemble, mais chacun sur leur sujet au sein de certaines de nos maisons. Mais par contre, ils mangent ensemble, ils font du sport ensemble, et ils passent ce temps-là ensemble pour créer des liens et ensuite pouvoir avoir un fonctionnement à distance qui est plus efficace.
C'est vrai qu'on ne pourra jamais remplacer le lien. Quand tu vois quelqu'un, tu as toujours des liens bien plus forts qu'en visio. On ne pourra jamais remplacer ça. Et c'est pour ça que quand le télétravail est généralisé dans l'entreprise, il faut coupler ça avec beaucoup de séminaires et beaucoup de team building pour compenser cette absence de lien social entre les collaborateurs.
Vincent, tu nous as parlé de ton actionnariat croisé et de cette manière d'engager tous les talents de DG. Mais je sais qu'avec des dirigeants différents et 15 entreprises, il y a forcément 15 cultures différentes à la base dans EDG. Comment est-ce que tu fais pour fédérer ces cultures et faire que justement ce cross-sell et cette fertilisation à travers les entreprises dont tu parles prennent vraiment?
Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà dans le sourcing des sociétés qui vont rejoindre European Digital Group, on essaye de s'associer avec des entrepreneurs et qui ont les mêmes valeurs que nous. Et donc, il faut déjà avoir des entrepreneurs et qui sont team players. Ça nous est déjà arrivé de rencontrer des très belles sociétés qui, sur Excel, étaient parfaites, super rentabilité, super croissance, très bon secteur. Mais ça ne matchait pas avec le dirigeant. On ne sentait pas qu'il allait entrer dans le mindset de DG. Et donc, on n'est pas allé plus loin. Donc déjà, dans le sourcing, et d'ailleurs, dans la culture d'entreprise, c'est très important aussi. En fait, dans le sourcing des talents, il faut qu'il n'y ait pas que des personnes avec des compétences, mais aussi des talents avec un savoir-être et avec un mindset qui est compatible avec la culture de l'entreprise. Donc, ça joue déjà sur le sourcing. Et après, une fois qu'on a intégré la société, une fois qu'un collaborateur nous a rejoint, on a plein de process qu'on a mis en place donc pour favoriser cela. Donc, on a bien sûr, comme beaucoup d'entreprises, des team building, des séminaires, tout ça pour créer cet affect entre du lien entre les différents salariés. Mais on a beaucoup d'événements. Donc, on a des événements dédiés au directeur marketing, certains qui sont dédiés au RH, aux finances et des clubs qu'on a mis en place et qui vont permettre un partage de best practice entre tous les experts des différentes fonctions. Et donc, on en a un par fonction. Donc, voilà, on a un club RH, un club marketing, un club finance. On a un club aussi pour les commerciaux où là, tous les commerciaux de toutes les sociétés qui vont se réunir et échanger entre eux des leads commerciaux, des tips, des outils, de la méthodo. Et enfin, avec notre société Les Big Boss, ils ont monté une filiale qui a lancé l'EDG Academy. Et donc, on va former toutes les équipes donc, au social selling et à comment on utilise les outils du web moderne pour être plus performant commercialement. Donc, tout le monde est formé avec plein d'outils ultra innovants pour rester à la pointe de la prospection commerciale 2.0.
Trop bien. Tu peux nous en citer un ou deux ?
Des outils.
Ouais.
Moi, je suis passionné par les outils. Tellement beaucoup d'outils d'automatisation de la relation, des CRM ultra puissants, des outils pour avoir des bonnes bases de données de prospection, pour relancer automatiquement des clients. Voilà, tout ce qu'on appelle le social selling. Et donc, voilà, tous ces outils qu'on pourra avec plaisir partager. Mais il y en a des centaines, il y en a plus de 500. Hein.
Ah ouais. Merci du partage. Et ces clubs inter-entreprises que tu organises, ils sont sous un format spécial, ces rencontres? Il y a un process de ces rencontres?
Oui, exactement. Il y a toujours un ordre du jour. C'est toujours dans un endroit fun. Parfois, on l'a déjà fait plusieurs fois dans des châteaux formes. Et l'idée, c'est des moments conviviaux dans lesquels on va partager avec ses pairs toutes les best practices. On est dans le digital et d'ailleurs même dans un domaine plus traditionnel, dans des environnements qui vont très vite et il faut toujours faire de la veille, toujours être au courant des nouvelles technologies, des nouveaux outils. Et le fait de pouvoir partager comme ça avec ses pairs, ça permet de monter plus rapidement en compétences. Et on fait la même chose, tous les CEO aussi des sociétés, on se voit une fois par mois lors d'un dîner où on va échanger et partager aussi nos difficultés, nos victoires, on va célébrer ensemble. Et donc voilà, c'est beaucoup de rencontres comme ça qui vont nous faire tous monter en compétences.
Très intéressant. Donc c'est et un moment convivial et un moment d'enrichissement par l'échange.
En fait, il faut que ce soit convivial et c'est en plus de l'échange.
Très bien. Tu as mentionné les talents et le sourcing des talents. Est-ce que tu as des tips à nous donner sur le recrutement, notamment pour savoir quel est le mindset d'un candidat potentiel et est-ce qu'il va être est-ce qu'il va rentrer en cohérence avec la culture que tu promeus?
Alors déjà, ce que j'ai pu constater, parce que j'ai quand même recruté beaucoup de monde dans ma vie, et ce que j'ai pu constater, c'est que les ressources humaines, ce n'est pas une science exacte. Donc, on a beau avoir beaucoup d'expérience, on a beau avoir recruté des milliers de personnes, le 100% de succès n'existe pas. Donc, tout le monde peut se tromper. Néanmoins, je pense avec de l'expérience et de la méthodologie, on peut augmenter ses chances de succès dans un recrutement. Et donc, les chances de succès, ça dépend des profils. Mais si je prends par exemple un profil technique, un développeur web, je verrai quelques étapes pour le recruter. Déjà, lui faire passer un test technique, ça va permettre d'évaluer ses compétences techniques. Ensuite, demander à un des experts techniques de l'entreprise de lui faire un entretien technique et d'échanger sur le test pour bien vérifier pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu à telle et telle question et comprendre vraiment ses compétences. Ensuite, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'entretien de personnalité en troisième étape. Et donc, avoir des RH compétents, capables d'évaluer la personnalité. On peut doubler ça de tests de personnalité. Il y a des sociétés, des logiciels qui font en ligne des tests de personnalité, comme le PSV 120, et qui va permettre d'appréhender au mieux la personnalité. Ensuite, il y a une autre étape fondamentale dans un recrutement. Pour moi, c'est la prise de référence. Bien sûr, en accord avec le salarié, on lui demande de nous communiquer les coordonnées de quelques personnes avec qui il a travaillé. Et je pense que d'avoir le feedback de quelqu'un qui a travaillé avec lui, ça permet de comprendre quels sont ses points forts, les points d'attention et de conforter dans l'envie de recruter ce collaborateur. Donc voilà un peu les 4-5 étapes qui permettent d'augmenter ses chances de succès. Mais encore une fois, RH, ce n'est pas une science exacte. Et je me suis trompé plein de fois parce que ce n'est pas parce qu'un salarié est brillant dans une entreprise qu'il va forcément l'être dans une autre. Et inversement, ça je peux dire, c'est, même si un salarié a eu une difficulté dans une entreprise, pas qu'il soit déprimé et qu'il se dise « ça y est, c'est fini pour moi, ma carrière est terminée », et ben ça pourra très bien se passer beaucoup mieux dans une autre. Ça dépend de l'écosystème, de la bienveillance qu'il y a autour de lui, de ses besoins. Il faut trouver une entreprise qui matche avec sa personnalité.
Donc, le conseil que tu fais passer à toutes les personnes qui peuvent nous écouter, c'est que si vous ne vous épanouissez pas dans votre travail, quittez votre entreprise pour trouver une autre entreprise dans laquelle vous pourrez vous épanouir.
Voilà, et surtout si vous êtes dans le digital, rejoignez European Digital Group.
C'est noté, le conseil est passé. Écoute, merci pour cette interview.
Ben, merci à toi, c'était un plaisir.
Notre philosophie et notre démarche à travers ces interviews, c'est qu'on croit qu'une meilleure culture d'entreprise ou des entreprises qui amélioreraient leur culture pour qu'elles soient plus humanistes, qu'ils prennent plus soin de leurs talents, amèneraient un monde meilleur. Est-ce que tu as une invitation à faire aux dirigeants qui nous écoutent dans ce sens?
Alors bien sûr, j'invite tous les dirigeants à se concentrer sur le bien-être de leurs salariés. Et je suis convaincu que la réussite d'un entrepreneur, d'une entreprise, dépend à 99% des talents de la société. Et il faut attirer les meilleurs, les fidéliser, faire en sorte qu'ils aient envie de réussir et de rester dans l'entreprise. Et voilà, et ça doit être la priorité numéro une, puisque c'est ça le capital, le vrai capital d'une entreprise. Moi, quand je rachète une entreprise, ce que je regarde, c'est d'abord les talents, ensuite les talents, et enfin, je regarde les talents, parce que c'est le plus important.
Merci Vincent.
Génial, merci beaucoup, à très vite.
À très bientôt.